Je commencerai par une petite question, un petit sondage ce matin. On ne va pas revenir dans Pierre aujourd'hui, on va voir autre chose, mais je ne vous demande pas de répondre à main levée, tout ça, mais pensez-vous de rassemblement physique de l'Église, de la participation aux rencontres de l'Église pour un croyant? Est-ce, je vous pose trois, comme c'est un sondage, trois possibilités, est-ce indispensable? Est-ce souhaitable? Ou bien est-ce que c'est optionnel? Est-ce que se rassembler physiquement est quelque chose d'absolument incontournable et dispensable pour l'Église, pour les enfants de Dieu? Est-ce que c'est plutôt souhaitable, mais on peut s'en passer, ou est-ce que c'est vraiment optionnel? Alors, la pandémie que nous sommes en train de vivre, je crois, a bouleversé beaucoup de choses dans notre monde. Et afin de lutter contre la pandémie et contre la contamination, il y a beaucoup de slogans qui sont apparus, n'est-ce pas? Et parmi eux, on trouve celui-ci, cette formule: ensemble, gardons nos distances et prenons soin de nous. Alors, je ne sais pas si on réfléchit bien à la phrase. Nous sommes dans cette formule assez contradictoire, hein, nous sommes appelés à faire quelque chose ensemble. Et ce que nous sommes appelés à faire ensemble, c'est de ne pas être ensemble. Ensemble, gardons nos distances. Ouais. Et je crois que cette distance, on a dû l'adopter pour faire barrière, n'est-ce pas, au virus. Et cette manière de faire a aussi touché l'Église locale, bien sûr, qui a appris à se réunir à distance. Voilà quelque chose qui est devenu assez nouveau, se réunir à distance. Certains ont découvert qu'il y avait un certain confort, n'est-ce pas, à rester chez soi, bien calé dans son fauteuil, parfois en pyjama, sous la couette pour certains, et puis à voir le culte se dérouler. Voir sans être vu, hein. À participer au culte sans vraiment être là. On a appris à penser avec des mots tels que distanciel et présentiel. Et parfois, il me semble que les deux sont devenus dans nos esprits équivalents. On peut faire en distanciel ce qu'on peut pas faire en présentiel. Voilà. Et on peut les interchanger. Alors la question que l'on se pose ce matin, celle-ci. Le rassemblement, j'ai posé au début, de l'Église, le rassemblement physique, s'entend de l'Église, est-il indispensable ou ne l'est-il pas? Alors moi, je dis que oui. Hein. Je dis que oui, il est absolument indispensable et même irremplaçable. Il est absolument indispensable et irremplaçable. Alors, voilà, on pourrait prendre comme titre de notre message ce matin: pourquoi l'Église doit se rassembler physiquement autant que possible? Pourquoi l'Église de Christ doit se rassembler physiquement autant que possible? Alors, je ne vais pas prendre un texte en particulier ce matin, mais quelques textes différents pour soutenir quelques vérités que la Bible enseigne sur l'importance du rassemblement de l'Église. Premièrement, donc, pourquoi l'Église doit se rassembler physiquement? Premièrement, parce que le rassemblement physique, c'est la vocation même de l'Église. Le rassemblement physique, c'est la vocation de l'Église. C'est l'ADN de l'Église, de Christ, de se rassembler. Ça n'est pas optionnel. Ça fait partie de l'ADN de l'Église. Le mot même, Église, n'a d'autre sens que celui de rassemblement, d'une assemblée. Le mot, c'est le mot ecclésia, qu'on utilise souvent dans la Bible, lorsque vous voyez traduit église, c'est le mot ecclésia, dont la transposition en français, bien sûr, a donné ecclésial, ecclésiastique, etc., que vous connaissez bien, puis église. Et le mot grec est formé de deux mots, ek, ecclesia, hein, et qui veut dire hors de, et puis appel. Donc, l'église, c'est ceux qui sont appelés hors de. Et l'église est un mot qui était utilisé dans le langage courant grec de l'époque, hein, ou par exemple de l'épître aux Corinthiens. Hein. Si vous alliez dans la ville de Corinthe et puis que vous disiez à quelqu'un, vous arriviez où se trouve l'église de Corinthe, les gens vous regarderaient bizarrement, l'église, il n'y a pas d'église de Corinthe. Parce qu'une église, c'est une assemblée. C'est une convocation de quelques de personnes à se rassembler. C'est ça que le mot veut dire. Et c'est ce qu'on trouve en Actes chapitre 19, par exemple, au verset 39, où il est dit, c'est le proconsul, je crois, qui parle, il y avait une espèce d'émeute concernant l'apôtre Paul. Et en Actes 19, verset 39, le proconsul dit, « Si vous avez en vue des objets, ils se régleront dans une église légale, dans une assemblée légale. » Et c'est le même mot. D'accord? Donc, une église est une assemblée. Donc, par définition, on ne parle pas d'église quand il n'y a pas d'assemblée. Une église est une assemblée. On peut voir dans l'écriture que Dieu est un Dieu qui cherche à rassembler son peuple. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est ce que l'on peut voir. Regardez Deutéronome chapitre 31, par exemple. En Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31 et au verset 10. Dieu parle à Moïse et puis lui demande de donner des ordres au peuple et de le rassembler. Il dit tous les 7 ans. À l'époque de l'année du relâche, la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, vous voyez ça, se présenter dans le lieu que Dieu a choisi, tout ça, ce sont des notions qui sont importantes ici, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Verset 12, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers qui sont dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Voilà comment Dieu veut que Moïse parle au peuple. Pas que tu ailles voir chacun chez lui, mais que tu les rassembles afin qu'ils craignent, qu'ils me craignent et qu'ils entendent ta parole. Lorsque Néhémie, par exemple, hein, a pris dans Néhémie chapitre 1, le peuple est en exil, d'accord, et il prie pour la délivrance, et il va appeler Dieu à se souvenir de ce qu'il a dit par Moïse, bien plus tôt. Et il dit ceci en Néhémie chapitre 1, versets 8 et 9, il dit, « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai. Je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Ici. Alors, ce que Dieu, vous voyez ici, il y a deux choses intéressantes ici à noter. D'une part, la dispersion et puis le rassemblement. Le péché conduit à la dispersion. La dispersion est une malédiction que Dieu fait peser sur le peuple. L'exil est une malédiction. Et quand le peuple revient et se repent, Dieu dit, eh bien, à ce moment-là, il le rassemble. Et le rassemblement du peuple de Dieu est une bénédiction. Donc, quand il pêche, il est dispersé. Et quand il revient à Dieu en repentance, il est rassemblé. Et Dieu veut être connu comme celui qui rassemble son peuple. Jérémie 31:10. Il dit ceci, « Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines, jusqu'en Martinique et en Guadeloupe. » Il dit, dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Voilà, voilà ce que Dieu veut qu'on sache. Celui qui a jeté cette, on pourrait dire, cette malédiction sur le peuple, voilà ce qu'il va faire. Il va rassembler son peuple. Il veut que ce message soit annoncé. Il est le Dieu qui rassemble ses enfants. Il dit, dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Il le gardera rassemblé. C'est la volonté de Dieu que son peuple se soit rassemblé. Et on trouve la même chose dans le Nouveau Testament. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Il dit, moi, en Matthieu 16, verset 18, je te dis à Pierre, c'est une déclaration que Pierre avait faite, que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon assemblée, mon église, mon rassemblement. C'est ce que Dieu dit. Il ne dit pas je bâtirai mon temple, je bâtirai une église. Il dit je bâtirai mon assemblée, mon rassemblement, mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc il parle ici de rassembler. Dans la question 54 du catéchisme d'Heidelberg, certaines questions qu'on fait dans notre catéchisme sont tirées aussi de ce catéchisme-là, en 1563. Et il y avait une question concernant l'Église, elle est celle-ci. Que crois-tu de la Sainte Église universelle? Que crois-tu de la Sainte Église universelle? Et la réponse, parmi tout le genre humain, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, le Fils de Dieu assemble autour de lui une communauté élue pour la vie éternelle. Voilà l'œuvre que le Fils de Dieu est en train d'accomplir, de rassembler, d'assembler ses enfants. Et cette vérité, elle est exprimée dans ce qui est dit en Jean chapitre 11. Lorsque Gamaliel, je crois, dit au peuple de ne pas prendre le risque de combattre Dieu quand il voulait combattre les disciples. Et il dit, il vaut mieux qu'un homme meure pour la nation plutôt que toute la nation, quelque chose comme ça, je crois, dans Jean chapitre 11. Et le texte dit qu'il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. On trouve encore là la notion de réunion et de dispersion qu'on a vu dans l'Ancien Testament. Vous voyez, les enfants de Dieu sont dispersés et Christ meurt, s'offre en sacrifice pour ramener à lui, réunir en un seul corps. Et on sait que l'apôtre Paul utilise la métaphore du corps pour parler de l'Église. En un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Donc on pourrait dire que Christ œuvre au rassemblement ou à la réunion en un seul corps de ses enfants. L'Église, c'est donc un rassemblement et non une dispersion. Et elle est appelée à vivre en étant rassemblée et non dispersée. Donc dans son aspect terrestre, on peut dire que l'Église rend compte par ces rassemblements physiques de la réalité spirituelle, du grand rassemblement du peuple de Dieu et du grand rassemblement que Dieu est en train d'accomplir. Et elle anticipe même le rassemblement final qu'on trouve dans Apocalypse 7, verset 9. Regardez Apocalypse chapitre 7, verset 9. Et vous voyez ici Apocalypse 7, verset 9. Alors j'en dis, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Vous voyez, puis toutes ces âmes, toutes ces personnes, tous ces peuples qui sont de toute nation, de toute tribu, de toute langue, c'est le grand rassemblement du peuple de Dieu et l'Église sur la terre, rend compte par son rassemblement de cette réalité-là. L'histoire de l'Église primitive témoigne de la vérité du rassemblement, de la nécessité du rassemblement physique du peuple de Dieu. Actes chapitre 2 et versets 41 à 47. On va regarder aussi ce passage. Actes chapitre 2, versets 41. Donc ça, c'est juste après la Pentecôte, après la prédication de l'apôtre Pierre. Les âmes se tournent vers Christ, se convertissent. Et verset 41 dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples augmenta environ de 3000 âmes. » Ça, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, ce qu'ils font, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et puis verset 43, « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Pas si vous avez fait attention, mais ils sont restés ensemble. Après, il y avait des gens qui venaient de toutes parts, de beaucoup d'endroits, ils sont restés ensemble après leur conversion. Ils se sont joints à l'Église. Ils ont adhéré immédiatement à l'Église locale de Jérusalem. Et c'est un point frappant que Luc souligne ici. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ça parle d'un rassemblement physique, géographique, on pourrait dire, hein, de ce peuple. Ils avaient tout en commun. Verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. On parle encore du rassemblement. Il montre que l'œuvre de l'Esprit pousse premièrement ces tout premiers chrétiens à se joindre, à demeurer ensemble, à s'assembler, à se réunir physiquement. Non pas verbalement, mais à dire nous sommes unis, mais à le vivre réellement. Et ils participaient à toutes les assemblées de l'Église. C'est ce que l'on comprend ici. Ils ne sont pas repartis chacun chez soi, mais ils sont vraiment demeurés ici ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'une église est une église? Son rassemblement régulier en un même lieu. On dit souvent, l'église, c'est pas le lieu. On dit parfois, mais même quand l'église en semaine est répartie, c'est l'église. C'est vrai, on appartient toujours à l'église, mais si l'église ne se réunit jamais, elle n'est pas une église. Elle ne joue pas réellement son rôle d'église. Quelqu'un faisait remarquer, c'est comme une équipe de foot. On peut dire qu'on fait partie d'une équipe de foot ou de sport collectif. D'accord? Mais imaginez que les joueurs disent de nous, on s'entraîne chez nous. Tout le temps. On regarde des vidéos pour voir comment il faut s'entraîner. On fait la musculation tout seul, etc. Mais ils ne se rencontrent jamais, jamais pour s'entraîner ensemble. Ça donnerait une drôle d'équipe, n'est-ce pas? Une drôle d'équipe, ils pourraient remporter aucun match. Aucun match. Parce qu'ils ont besoin en tant qu'équipe. Et faire partie d'une équipe, c'est se rencontrer en tant qu'équipe. Faire partie d'une église, c'est se rencontrer en tant que membre de cette église, parce que c'est la vocation, c'est l'ADN même de l'église de se rencontrer. Une église qui ne se rencontre pas n'est pas une église, vraiment, si elle ne se rencontre jamais. Et donc oui, c'est vrai, quand on est éparpillé en semaine, on fait toujours partie de l'église, mais si on en restait que comme cela, on ne serait pas réellement une église telle qu'elle est définie bibliquement, c'est-à-dire une assemblée. Un rassemblement physique de personnes. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Le rassemblement physique de l'Église, c'est l'ADN même de l'Église. C'est la vocation de l'Église. Deuxième vérité, pourquoi l'Église doit se rassembler physiquement? Parce que le rassemblement physique de l'Église est le témoignage visible de la présence de Dieu dans le monde. Le rassemblement physique de l'Église, c'est le témoignage visible de la présence de Dieu. Quelle est la différence, chers frères et sœurs, entre un culte en distanciel et en présentiel? Quelle est la différence entre un culte en distanciel et un présentiel? Parfois, on pourrait dire, c'est en fait le fait qu'on peut pas vraiment se voir. Mais en distanciel, on se voit. N'est-ce pas? On se voit quand même. On se voit pas en entier, mais on se voit quand même. Je crois que la différence, c'est qu'on n'est pas visible. L'Église éparpillée n'est pas visible. L'Église rassemblée est visible. Les voisins voient l'Église arriver, voient les gens arriver. Ce matin, sur la route avec ma femme, on dit, tiens, il y avait des gens qui traversaient la rue un peu plus loin là, vers chez la sœur Thérèse, là, un peu plus haut, et ils allaient dans un coin là-bas, et il y avait plusieurs personnes qui se... Et on s'est dit, ça c'est sûr, ce sont des gens qui vont dans une église, il y a un petit lieu de culte quelque part ici. Il y avait une visibilité tout de suite. D'accord? Et c'est une chose qui est extrêmement importante. L'Église ne remplit son rôle que lorsqu'elle se rassemble. Elle n'est visible que lorsqu'elle se rassemble. Et le rassemblement physique de l'Église donne une véritable visibilité en tant que peuple de Dieu. De l'extérieur, on sait que le peuple de Dieu se rassemble. Lorsque l'Église est rassemblée, c'est à ce moment-là qu'elle peut délivrer tout son message. Son message devient pertinent lorsqu'elle se rassemble. Et quand elle est rassemblée, elle devient visible et elle témoigne vraiment que Christ est son chef. La Bible dit, en Matthieu chapitre 18, verset 20, « Car là où deux ou trois sont réunis en assemblée en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors certes, ce texte est un texte qui traite de la discipline dans l'Église. Mais Dieu dit que lorsque l'Église se rassemble pour rendre en son nom, elle a toute autorité qui vient de sa part, il est au milieu d'eux, pour prendre une décision, même quand c'est une décision disciplinaire. C'est ça que le texte est en train de nous dire ici. Donc quand l'Église se rassemble, elle témoigne que Christ est son chef et elle témoigne de l'autorité que Christ a sur elle. Quand elle est physiquement rassemblée, c'est là qu'elle peut délivrer vraiment son message. Et quand elle est rassemblée, eh bien, c'est là que toutes les réalités qui concernent l'Église prennent du sens. Ici, quand la Bible dit que c'est le corps de Christ, que ce sont les citoyens des cieux, eh bien, ces réalités, ces choses deviennent réalité quand l'Église est en train de se rassembler. C'est le peuple de Dieu qui se rassemble. C'est des gens qui pensent quelque chose, qui disent quelque chose. Donc, le rassemblement dit quelque chose. Au début de l'histoire de l'Église, je vous avais lu quand on avait regardé dans 1 Pierre, ce sénateur de Bithynie, hein, au début de l'histoire de l'Église, au premier siècle, qui s'appelait Pline, si vous voulez, hein, et il écrit à l'empereur Trajan pour parler de ces chrétiens, de cette catégorie particulière de personnes qu'il avait à gérer, et qu'on appelait des chrétiens, et qui commettaient des actes délictueux. Les actes délictueux, c'était qu'ils adoraient Jésus-Christ. Hein. C'était ça qu'il fallait comprendre par là. Et il écrit ceci pour évoquer leurs méfaits. Il dit leurs actes délictueux, eh bien, c'est qu'ils se bornent à l'habitude de se rassembler à date fixe avant l'aube. Ça commence comme ça. Et la première chose, la première cible du sénateur Plain, c'est le rassemblement physique de l'Église. C'est ça qu'il souligne en premier. Après, il parle du contenu, il dit, et il chante des hymnes au Christ comme à un Dieu, et il s'engage par serment à ne commettre ni vol, ni acte, ni brigandage, ni adultère, et de ne pas manquer de parole. Mais voilà ce qu'ils font, mais ils notent le fait qu'ils se réunissent régulièrement à heure fixe. Ce rassemblement physique. Et ceux qui l'interpelle. Et donc le fait de se rassembler pour affirmer allégeance à un autre roi que César donne une portée différente au message de ces chrétiens-là. Lorsque les individus isolés, par exemple, même s'ils sont nombreux, revendiquent ici ou là telle ou telle chose, les gouvernements s'en inquiètent peu. Mais si ces individus se rassemblent et descendent de manière visible dans la rue, ça prend une dimension différente. Différente. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui s'agglomère, qui se rassemble autour d'une idée pour dire quelque chose. Il y a un message qui est véhiculé par ce biais-là. Et je crois que pour l'Église, c'est la même chose. Si l'Église dispersée dit « nous croyons en Jésus », celui dit ça dans son coin, l'autre dit ça dans son coin, c'est une chose. Mais lorsqu'elles disent « Jésus-Christ est roi, nous croyons en Christ, c'est à lui que nous sommes soumis », mais quand elles se rassemblent physiquement, visiblement, pour le dire, ça a une portée particulière. Et on n'a jamais vu l'Église dispersée être persécutée. L'Église persécutée, c'est l'Église qui se rassemble. Et en tout lieu où elle est persécutée, les gouvernements cherchent à dissoudre les rassemblements, empêcher les rassemblements, fermer les lieux de rassemblement. C'est donc que le rassemblement veut dire quelque chose. Le rassemblement est le témoignage visible de la présence de Dieu. Ce n'est pas le rassemblement en lui-même qui change, mais c'est ce qui est dit dans le rassemblement. C'est l'évangile qui est annoncé dans le rassemblement, qui parfois est vécu comme une menace, de même que pour l'empereur romain, c'était vécu comme une menace de dire que Jésus-Christ est Seigneur, et c'est lui qui est roi, et pas César. Et de se rassembler pour le dire, de montrer visiblement que nous prêtons allégeance à ce roi-là, à ce Seigneur-là, et nous nous rassemblons par obéissance, parce qu'il nous demande de le faire. C'est cela qui est important ici. Le fait de se réunir en un même lieu, ce qui est impossible à distance, établit d'une manière certaine une frontière entre le peuple de Dieu et le monde, obligatoirement. Ici se réunissent des chrétiens, les gens le savent, peuvent le dire. Si on est réunis de manière dispersée, on ne sait rien du tout. En Actes chapitre 5, rappelez après le décès d'Ananias et Saphira, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de miracles qui s'est produit dans l'église par les mains des apôtres. Et il dit que tous ceux qui étaient là, qui étaient dans l'église, se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun d'autre des autres, de ceux qui n'avaient pas cru, n'osait se joindre à eux. Il y avait une frontière qui était établie lorsque l'église était rassemblée. Les gens n'osaient pas, surtout qu'ils avaient vu passer ces choses étranges, cette église. Deux personnes sont décédées, et ils ont compris, attention, on ne rentre pas là de n'importe quelle manière. Ils avaient peut-être une crainte de s'approcher. Mais ça mettait une frontière. Il y avait des choses qui s'étaient passées qui montraient que l'Église, elle est sainte et qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas mentir. Et le rassemblement de l'Église établissait une frontière entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors bien sûr, le témoignage de l'Église, c'est que on puisse venir au Seigneur, on puisse recevoir Christ et faire partie de cette famille. C'est ça qui est le témoignage de l'Église. Mais néanmoins, quand elle se rassemble, elle marque cette frontière. Elle est un témoignage visible de la présence de Dieu. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors ça, c'était la deuxième chose que je voulais souligner. Le rassemblement physique de l'Église est important parce qu'il est le témoignage visible de la présence de Christ. Mais, troisièmement, je voudrais dire aussi que le rassemblement physique de l'Église est le moyen que Dieu choisit pour la croissance des uns et des autres. Le rassemblement physique de l'Église est le moyen que Dieu choisit pour la croissance des uns et des autres. On peut voir ça dans plusieurs passages, mais j'en prends juste un. Dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, nous lisons ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant que vous voyez s'approcher le jour. Voilà, un texte qui exhorte à ne pas déserter. N'abandonnons pas, ici le verbe c'est parfois le fait de déserter, hein. On pourrait dire ne désertons pas ici notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Probablement à cette époque il y avait déjà des personnes qui pour des raisons ou une autre désertaient un peu le rassemblement puisqu'ils sont exhortés à ne pas le faire. Et je crois que quand on regarde aujourd'hui, malheureusement les églises parfois, les chrétiens parfois désertent de plus en plus les rassemblements physiques de l'église. Les églises se vident de plus en plus. Alors, on peut être à certaines réunions assez nombreux, et puis à d'autres quasiment absents. Et je me souviens, vous connaissez peut-être l'histoire des Huguenots avec les assemblées du désert, hein. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Si vous n'êtes jamais allé dans le Gard, mais vous pouvez visiter, si vous allez en vacances là-bas, le musée du désert, à Mialet, qui raconte un peu l'histoire des camisards, tout ça. Et puis, comment les protestants faisaient des efforts pour se rassembler, pour aller écouter un prédicateur itinérant qui passait, hein, donc qui s'était à l'extérieur, hein. On appelle ça les assemblées du désert. Et on voit des fois des images. Il y a des gens qui ont peint des fresques là-dessus où on voit des personnes avec leurs enfants en regarder et en peur, mais en même temps allant pour écouter la parole de Dieu. Et j'avais envie de dire, à cette époque, on appelait ça les assemblées du désert. Aujourd'hui, on parlerait du désert des assemblées. Malheureusement, quand on regarde, on vide les assemblées, les réunions, c'est ce qu'on, sur lequel on fait un trait le plus facilement. Rater un dimanche, c'est pas un problème. Ne pas venir en réunion de semaine, ça n'est pas un problème. Ne pas être à la réunion de jeûne qui est prévue pour nous, ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. Mais, savez-vous, chers frères et sœurs, que le rassemblement physique est le moyen par lequel moyen de grâce, on pourrait dire, que Dieu donne pour la croissance spirituelle des uns et des autres. Il dit ici, ne désertez pas l'assemblée. Alors pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, Hébreux 10, verset 24. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Autrement dit, Dieu a prévu que le rassemblement physique des chrétiens, la réunion physique des chrétiens serve à l'édification et à la croissance spirituelle des uns et des autres. Il dit, veillons les uns sur les autres. Veiller ici, c'est vraiment regarder avec beaucoup d'attention. C'est considérer, le mot est utilisé par exemple dans Luc chapitre 12 pour dire considérer, quand Jésus dit considérer les corbeaux des champs, considérer les lys des champs, il dit observer avec beaucoup d'attention. Et le sens ici est de la vigilance, la grande vigilance les uns sur les autres est demandée ici. Lorsque l'Église se réunit, elle le fait pour pouvoir, si j'ose dire, accomplir ce ministère qui lui est confié, d'être vigilant les uns envers les autres. Donc, vous êtes, c'est ce que ce texte dit, les gardiens de vos frères et de vos sœurs. Vous rappelez, lorsque Dieu avait dit à Caïn, où est ton frère? Il a répondu, suis-je le gardien de mon frère? D'accord? Eh bien, Dieu dit ici, réunis-toi avec tes frères, parce que tu es le gardien, la gardienne de tes frères et de tes sœurs. C'est ce que ça veut dire ici. C'est ce que ça veut dire. Veillez les uns sur les autres. Et regardez ce qui est demandé ici. Et c'est chacun qui doit le faire. Regardez les termes ici de « exhortons-nous réciproquement, veillons les uns sur les autres ». D'accord? Donc c'est les uns et les autres qui doivent le faire. C'est pas simplement écrit ici que les anciens, les pasteurs, les responsables d'église doivent veiller sur les autres. Certes, ils doivent le faire, mais chaque chrétien a ce ministère, quelqu'un appelle ça le ministère d'assistance que Dieu lui confie. Enfin, on se dit, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire dans l'église. Je ne comprends pas quelle est ma place dans l'église. Quel est mon don? Comment je peux l'exercer? Ici, c'est très clair. Dieu veut que nous n'abandonnions pas nos rassemblements et que nous exercions le ministère de vigilance les uns envers les autres. Que nous nous excitions, il dit ici, à l'amour et aux bonnes œuvres. Et ici, exciter, c'est un mot qui est assez fort, hein. On pourrait dire inciter, hein. Il est utilisé parfois dans un sens négatif, quand la Bible parle, par exemple, dans Actes chapitre 15, de la dissension qu'il y avait entre Paul et Barnabas concernant Jean-Marc. D'accord? Il y avait un conflit, et donc le mot qu'étudie, c'est le même mot ici qui est utilisé par exciter, hein. Et donc il a le sens souvent de la provocation. Donc ça peut être négatif quand quelqu'un vous provoque. Alors on sait facilement provoquer les gens, irriter. La Bible dit, père, n'irritez pas vos enfants, parce que c'est facile pour un père d'irriter ses enfants. Donc, provoquer de manière négative est quelque chose qui est très naturel chez nous, que l'on peut faire très facilement avec un mot. D'accord? On peut mettre le feu, prononcer la petite phrase qui tue, très facilement. Mais ici, le chrétien est exhorté à provoquer positivement, à provoquer à l'amour, être des provocateurs d'amour, si on pourrait dire ça comme ça, et de bonnes œuvres. Et c'est ce qui se passe lorsque les croyants se retrouvent réunis physiquement. Ils veillent les uns sur les autres et ils s'encouragent mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Et c'est ça que Dieu veut. Il dit, au lieu d'abandonner, pensez à exercer votre ministère en vous rassemblant. Ministère d'assistance que vous avez les uns envers les autres. Que la manière avec laquelle il faut mener ce ministère, c'est en étant assidu aux assemblées de l'Église. Quand je lis le texte dans la version Darby, il t'écrit comme ceci. Il dit, retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes. C'est-à-dire, on prend garde aux autres, on s'entretient mutuellement en n'abandonnant pas. C'est-à-dire, si on abandonne, on ne pourra pas le faire. Si on abandonne, on ne pourra pas s'exhorter mutuellement. Ici, il faut rester ensemble, se réunir pour accomplir ce ministère-là. Dieu a prévu que ce ministère ne s'accomplisse que par le moyen du rassemblement. Il ne s'accomplira pas autrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exhorter quelqu'un à cela seul, c'est pas ça que ça veut dire. Mais Dieu a prévu que quand l'Église se rassemble, eh bien, quand on accomplit ce qu'il nous demande d'accomplir, on est plein de l'Esprit de Dieu, eh bien, on travaille à l'édification mutuelle et à la croissance mutuelle des uns et des autres. Il y a des chrétiens qui disent, moi, je préfère rester seul car je sers mieux le Seigneur ainsi. Moi, je vois les autres. Et mieux je me porte. Les chrétiens, ils sont trop hypocrites. Ils sont curieux. Ils veulent interférer dans vos affaires. C'est des choses que j'ai entendues, et même il n'y a pas très longtemps. D'accord? Par des personnes qui connaissent le Seigneur depuis longtemps. Longtemps. Quoi faire de venir à l'église? Les gens sont hypocrites. L'auteur ne montre pas simplement ici que le rassemblement, le rassemblement comme le lieu propice de la stimulation à l'amour et aux bonnes œuvres, mais il indique que le fait de se rassembler aussi est un élément encourageant et stimulant. Participer à la réunion, c'est donner aussi un exemple qui va stimuler les autres. Notre siècle, avec son développement technologique, a favorisé l'individualisme, n'est-ce pas ? La multiplicité des écrans, des réseaux, etc. On peut faire maintenant la possibilité de suivre à distance, nous pousse un petit peu parfois dans une certaine paresse, n'est-ce pas ? Quelqu'un a dit que tout ce que l'homme fait, il le fait pour son repos. Hein, tout ce que l'homme met au point aujourd'hui, il le met au point pour son repos. On est beaucoup dans l'automatisme. Si on pouvait faire tout sans se déplacer de chez soi, on peut maintenant acheter sur Amazon sans se déplacer. Vous ne déplacez pas de votre chambre. Vous cliquez, ça arrive chez vous. Presque dans l'heure d'après. Et on voudrait que l'église soit aussi comme ça. Hein. Sans sortir de mon lit, je peux faire des choses. Alors, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, ils sont sur Internet. Il y a maintenant profusion de messages sur Internet. Voilà, on peut consommer quand on veut, comme on veut. On peut choisir le prédicateur qu'on veut, sur la chaîne YouTube qu'on veut, écouter le message qu'on aime, à l'heure que l'on veut aimer, n'est-ce pas? On peut vraiment personnaliser la vie chrétienne. Et on dit souvent, mais n'est-ce pas quelque chose d'individuel, la vie chrétienne? Il est question d'accepter Christ comme son sauveur personnel. Oui, certes. Mais quand on lit l'Écriture, on voit que Dieu veut que son peuple se rassemble et qu'il a prévu qu'il progresse par le rassemblement et pas autrement. Et pas autrement. Lorsque Thomas était absent, rappelez-vous, quand après la résurrection, Jésus est venu, il a visité les disciples qui étaient rassemblés. Et Thomas, lit le texte dans Jean chapitre 20, n'était pas présent. Les disciples lui ont dit, mais tu sais, ils étaient dans la joie, Jésus. Et lui, il était, comment? Sceptique. Il ne croyait pas. Alors que les autres avaient le cœur dans la joie, lui, il avait encore le cœur tout sec. Parce qu'il n'était pas là où il devait être. Et puis la Bible dit, une semaine plus tard, Jésus est revenu et Thomas était là. Mais en attendant la semaine, Jésus n'est pas apparu à Thomas en privé. Hein. Il a fallu qu'il revienne à la congrégation pour qu'il bénéficie de la présence de Christ. Certes, certes, Christ peut et il le fait. Nous rencontrons avec lui quand nous lisons la parole, nous prions, nous sommes dans le culte personnel. Mais il y a des bénédictions qui ne seront pas accordées à moins d'être rassemblées avec le peuple de Dieu. Parce que c'est ainsi que Dieu a décidé de les dispenser. Et on n'y peut rien. Et on n'y peut rien. C'est ainsi. Et il nous faut nous soumettre à cela parce que c'est pour notre bien. L'Écriture ne connaît pas, ne reconnaît pas le chrétien individuel tout seul, l'électron isolé qui se balade dans son coin. Pas du tout. La Bible dit même que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Proverbe chapitre 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui s'isole. Et je peux vous assurer que ce verset-là est vrai. Tout ce qui sortait de son cœur, c'était de l'irritation. De l'irritation contre les autres, contre l'Église, contre la prétendue hypocrisie des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'il s'est isolé. On devient tout sec quand on s'isole. On ne progresse pas. Mais quand on est dans la chaleur de la communion physique avec les uns avec les autres, Dieu permet, même s'il y a des difficultés, que l'on grandisse, que l'on mûrisse les uns avec les autres. La réalité de notre besoin de rassemblement, chers frères et sœurs, n'est pas dans le fait que je ressente ou non, que je le ressente ou non, mais dans le fait que la Bible affirme qu'elle est urgente et nécessaire pour moi. C'est pas moi qui décide de ce dont j'ai besoin, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait ce dont j'ai besoin, qui dit ce dont j'ai besoin. Et qui donne ce dont j'ai besoin. Et ce qu'il me dit, c'est de ne pas déserter le rassemblement, mais d'y être, afin d'être encouragé et aussi d'encourager les autres. Et cela, dit le verset, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est-à-dire que la fin approche, comme disait l'apôtre Paul. Et il est temps de nous réveiller et d'obéir clairement à la parole de Dieu. Je voudrais terminer avec ceci. C'est que Dieu qui a décidé du moyen de notre salut, a décidé aussi des moyens de notre croissance spirituelle. Et ce moyen, c'est le rassemblement physique, régulier, à toutes les rencontres dans lesquelles je peux assister. Je vais vous lire ce qu'a écrit un homme que j'aime. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas connu. Il est mort bien avant que je naisse, mais j'ai cité plusieurs fois déjà ici. C'est l'évêque anglican Ryle, vous connaissez. Il a écrit ceci, pour les parents à l'égard des enfants. Mais ça concerne nous tous, on peut tous apprendre de ce qu'il y a, sur l'importance de rassemblement de l'Église. Il dit ceci, je vais vous lire. Formez votre enfant à aimer l'Église. Parents, nous avons la responsabilité de former nos enfants à aimer l'Église. Il dit, expliquez à vos enfants le devoir et le privilège d'aller à l'Église et de se joindre aux prières de la congrégation. Expliquez-leur ça. Dites-leur que partout où le peuple du Seigneur est rassemblé, le Seigneur Jésus est présent d'une manière spéciale et que ceux qui sont absents doivent s'attendre, comme l'apôtre Thomas, à manquer une bénédiction. Il ajoute ceci, parlez-leur de l'importance d'entendre prêcher la parole de Dieu et du fait que c'est la manière ordonnée par Dieu de convertir, de sanctifier et d'édifier les âmes des hommes. Dites-leur que l'apôtre Paul, on parle de l'épître aux Hébreux que nous avons lu ici, l'apôtre Paul nous ordonne de ne pas renoncer à nous réunir comme quelques-uns ont l'habitude de le faire, mais de nous encourager les uns les autres, et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour. Donc il cite ici Hébreux 10, 25, vous avez reconnu. Il ajoute, c'est un triste spectacle dans une église lorsque personne ne vient à la table du Seigneur, à part les personnes âgées, et les hommes et les jeunes femmes se détournent, et que, voilà, c'est triste de voir que les jeunes hommes et que les jeunes femmes se détournent de tout. Mais il est encore plus triste de ne pas voir d'enfants dans une église, sauf ceux qui viennent à l'école du dimanche et qui sont souvent obligés d'y assister. Ne laissez pas cette culpabilité s'abattre sur vos portes. Il y a beaucoup de garçons et de filles dans chaque ville, en plus de ceux qui viennent à l'école du dimanche. Et vous qui êtes leurs parents et amis, devriez veiller à ce qu'ils viennent avec vous à l'église. Ne les laissez pas grandir avec l'habitude de trouver de vaines excuses pour ne pas venir à l'église. Ça veut dire quoi? Je traduis. Ça veut dire, ne leur donnez pas déjà l'exemple d'excuses bidons. Quand les parents disent, je suis fatigué aujourd'hui, je vais pas au culte. Ou je viens pas à l'étude biblique, bon, j'ai déjà regardé sur internet, c'est pareil. Nous donnons de vaines excuses qui servent d'exemple plus tard, qui serviront d'exemple comme excuses à nos enfants. C'est ça que ça veut dire. Il faut donner l'exemple qu'ils peuvent suivre plus tard. Il dit ceci aussi. Donc je reprends. Ne les laissez pas grandir avec l'habitude de trouver de vaines excuses pour ne pas venir. Faites-leur bien comprendre que tant qu'ils sont sous votre toit, c'est la règle de votre maison. Que toute personne en bonne santé honore le Seigneur, le jour du Seigneur, et que vous croyez que la personne en bonne santé qui refuse d'aller à l'église le jour du Seigneur fait beaucoup de mal à son âme. Ne vous découragez pas parce que vos enfants ne voient pas maintenant toute la valeur de l'église, de la Sainte Cène. Entraînez-les simplement à prendre l'habitude d'assister régulièrement. C'est extraordinaire ça. Pas besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la Sainte Cène. Donnez-leur l'habitude de venir. Et comment on leur donne l'habitude de venir? En venant. En venant, quoi qu'il en coûte. En venant, même si je suis allé au mariage le samedi soir. En venant, même si je suis fatigué. Je parle avec une sœur ce matin, elle dit, oui, on est fatigué. Mais avec mon mari, on a pensé que quand on va au travail, même si on est fatigué, on y va. Donc on vient en culte. Et ça m'encourage à attendre ça, dès les premières heures de la matinée, n'est-ce pas? Pour le travail, on le fait. Et pour Dieu, on estime qu'on peut désobéir à son commandement de se rassembler. Faites en sorte qu'il voit un devoir, et c'est la dernière phrase, élevé, saint et solennel. Et croyez-moi, le jour viendra très probablement où ils vous béniront pour vos efforts. Extraordinaire, n'est-ce pas? Un jour, ils comprendront et ils vous béniront pour les efforts que vous avez faits, de les traîner peut-être jusqu'au culte, parce que c'était important. Parce que c'était important. Et nous devons assister à toutes les réunions qui sont pour nous, que la réunion de jeûne, si ça nous concerne. C'est ce que nous avons dit, je vais juste lire, quand nous sommes devenus membres de l'Église, j'ai cherché ce matin, et j'ai retrouvé ce qu'on appelle la déclaration de l'Église de Saint-Denis. Il y a plusieurs choses que l'on dit, mais quand on s'engage à devenir membre, on dit ceci, je voudrais, c'est le point 3, service de l'Église, ça existe depuis très longtemps, c'est de Steve qui avait écrit ça, je voudrais, avec l'aide de mon Seigneur et du Saint-Esprit, assister aussi fidèlement que possible à toutes les réunions qui me concernent dans l'Église. Hébreux 10, 25. Servir fidèlement mon Dieu dans quelques-unes des activités de l'Église. 1 Corinthiens 12, Jacques 1, verset 22. C'est ce que nous avons dit. C'est l'engagement que nous avons pris. C'est l'engagement que nous avons pris. Est-il indispensable de se rassembler physiquement? Oui. Parce que c'est l'essence même de l'Église de se rassembler. Parce que quand l'Église se rassemble, elle témoigne visiblement de la présence de Dieu en son sein. Et parce que lorsque l'Église se rassemble physiquement, elle permet à chacun de remplir le ministère que Dieu lui a confié, d'exhorter les autres et d'être un soutien pour les autres et d'être eux-mêmes aussi exhortés, de s'encourager mutuellement à l'amour. Que ce soit par les choix des cantiques, par les prières, par les échanges qu'il y a après. Tout cela participe. Je ne sais pas comment ça se passe, ni vous ni moi, mais c'est sûr que ça se passe ainsi parce que c'est ce que Dieu a dit. Et c'est lui qui fait que dans le principe, ça marche. C'est pas nous, c'est lui, c'est un principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Même si on ne sait pas comment. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'obéir, de ne pas déserter nos assemblées et d'y participer aussi fidèlement que possible, à la gloire de notre Dieu. Et si vous êtes là ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur, j'aimerais vous dire que vous pouvez aussi faire partie de cette famille. Et c'est la seule alternative que vous avez de faire partie de cette famille de Christ. Christ est venu pour nous racheter de nos péchés et nous préserver de la colère à venir. Il y a l'apôtre qui écrit l'Épître aux Hébreux dit que l'Église doit demeurer assemblée, d'autant plus qu'elle voit s'approcher le jour. Mais quel jour il s'agit? C'est le jour du grand jugement qui vient, où Christ va revenir et où chacun recevra selon ses œuvres. Et ceux qui n'auront pas placé en lui leur confiance, eh bien, devront subir son châtiment éternel. Alors aujourd'hui est le jour où vous pouvez venir à Christ et le recevoir comme votre Seigneur et votre sauveur personnel. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et je te prie que tu nous aides à la mettre en pratique. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons trouvé des excuses vaines pour ne pas obéir à l'ordre que tu nous donnes de nous rassembler. Tu t'es livré toi-même pour nous afin de te racheter un peuple qui t'appartienne en propre, purifié par toi et zélé pour de bonnes œuvres. Seigneur, aide-nous à ne pas déserter nos rencontres, à ne pas manquer d'être un encouragement pour les autres et d'être encouragé. Conduis-nous, je te prie, donne-nous par ton esprit le désir, la volonté d'obéir. Soumets nos cœurs à ta parole pour la gloire de ton nom. Amen.